Radio Django, la rose des vents.
Avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave. 18h26, ce soir, La Rose des Vents s'interroge sur le rôle des diasporas au prisme d'un film produit par l'unité de sociologie visuelle de l'Université de Genève. Une production qui nous fait découvrir la diaspora sénégalaise de Milan, Paris et de Genève. Elle met en perspective les préoccupations sociales, économiques et politiques de ces communautés installées en Europe. Des communautés qui restent un trait d'union entre le pays où ces dernières sont installées et les pays d'origine, Daniel.
En effet, Fabien, dans un monde globalisé qui se caractérise par sa mobilité et des interconnexions croissantes, les diasporas restent des passerelles dans un contexte transnational. L'augmentation des phénomènes migratoires ces 10 dernières décennies ont un effet multiplicateur des activités de ces dernières dans le champ politique, culturel et social, et autant dans le pays d'accueil que dans le pays d'origine. De nombreuses études montrent d'ailleurs que ces communautés diasporiques participent largement au développement de certaines régions du monde grâce à des transferts de savoir et des flux financiers.
Mais alors, qu'on comprenne bien qui compose ces communautés diasporiques et surtout qu'est-ce qui caractérise une diaspora ?
Vous soulevez là, Fabien, une question essentielle.
Mais oui.
J'ai rencontré lors de la préparation de ce sujet certaines difficultés pour trouver une définition claire et exhaustive du mot diaspora. Ce terme a autant voyagé que les personnes qui composent ces dites diasporas. Synonyme d'exil forcé, de déplacement de population, au XIXe siècle notamment, dans une perspective historique, ce terme a beaucoup évolué au fil des siècles et ne permet plus de faire une distinction claire entre diaspora et migration.
Ouais. Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir par téléphone Jenny Magui. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-auteur de l'étude Migration transnationale sénégalaise, intégration et développement, le rôle des associations de la diaspora à Milan, Paris et Genève. Cette étude publiée en 2013 par l'IRS, l'Institut de recherche sociologique de Genève. Jenny Magui, vous êtes chargée de cours au département de sociologie de l'Université de Genève. Vous faites aussi partie des membres fondateurs de l'unité de sociologie visuelle de l'Université de Genève. Vous avez en 2012 co-réalisé avec Dame Sarr ce film documentaire au diapason de la diaspora, c'est le titre, hein, au diapason de la diaspora, et vos recherches actuelles continuent de s'intéresser à l'engagement des diasporas migrants dans des projets de développement dans leur pays d'origine. Alors Jenny Magui, le terme diaspora divise, hein, on l'a dit avec Daniel à l'instant, il y aurait des vraies diasporas et les autres. Comment est-ce que vous définissez ce terme au 21e siècle, ou en tout cas comment est-ce qu'on peut le définir ?
Voilà, oui. Merci beaucoup. Hein. Oui, effectivement, comme vous avez rappelé, le terme diaspora, c'est un mot qui dérive du grec ancien et qui signifie effectivement dispersion, dissémination. Il désigne, comme vous avez rappelé, la dispersion d'une communauté ou d'un peuple à travers le monde. Mmh. Et puis les premières diasporas ont été les diasporas grecques de l'Antiquité. Ensuite, le terme a été longtemps utilisé pour signifier surtout la dispersion des Juifs à travers le monde. Donc dans le passé, on parlait surtout de la diaspora juive ou alors éventuellement arménienne. Mais voilà, c'était vraiment délimité à ces exils forcés quelque part. Donc de nos jours, ça a complètement changé. Donc la connotation du terme diaspora, ça existe toujours, bien évidemment, comme vous avez rappelé, des débats, des définitions très différentes, très conflictuelles aussi parmi les chercheurs. Donc pour certains, elle peut être plus ou moins restrictive, mais actuellement, on s'accorde quand même de manière assez consensuelle à désigner par le terme diaspora toutes sortes de phénomènes qui résultent des migrations des populations dans plusieurs pays à partir bien évidemment d'un foyer émetteur donné. Donc maintenant on peut parler de la diaspora juive mais aussi arménienne, kurde, portugaise, italienne, sénégalaise, bien évidemment on s'est intéressé nous dans ces études à la diaspora sénégalaise, brésilienne, chinoise, indienne, voilà. Mais par contre, il y aurait trois aspects qui seraient actuellement plutôt essentiels pour désigner une diaspora. En premier lieu, c'est le fait d'être conscient ou de revendiquer une identité nationale ou ethnique donnée. Ensuite, c'est l'existence de contacts, des liens, qu'ils soient réels ou imaginaires, avec les territoires ou le pays d'origine. Et finalement, l'existence aussi d'une forme collective d'organisation politique, sociale, religieuse ou culturelle, et qui renvoie directement au monde associatif. qui était justement l'objet du film Diapason de la diaspora et de notre dernière étude.
Jenny, avant de parler donc de ce film qui a été réalisé en 2013, en quoi est-ce qu'aujourd'hui faire partie d'une diaspora serait une réponse à des situations d'exil, d'immigration, voire d'exclusion ?
Alors, pour moi, donc, la conscience de faire partie d'une diaspora ou de se revendiquer en tant que membre de la diaspora est plutôt liée au tournant transnationaliste, hein, compris les phénomènes migratoires contemporains. Parce qu'effectivement, on parle de transnationalisme grâce au progrès en matière de communication et transport qui facilite vraiment le maintien des liens, les contacts avec les pays d'origine, avec la famille, les amis restés au pays, avec toutes ces possibilités accrues de voyager, de faire des allers-retours entre les pays d'accueil et d'origine. Donc maintenant, on conçoit de plus en plus que l'on peut être tout à fait intégré dans le pays d'accueil et maintenir des liens avec les pays d'origine, hein, donc de se revendiquer en tant que diaspora quelque part, mais aussi donc, jouer un rôle social, culturel, politique, économique dans les deux espaces, mais aussi participer à créer un lien entre les espaces d'accueil et d'origine, favoriser l'interconnaissance et les partenariats entre ici et là-bas. Donc, ça implique peut-être une sorte de double citoyenneté. On peut être des citoyens ici et là-bas, dans une sorte, moi, ce que j'appelle, et j'ai aussi utilisé ce terme dans l'ouvrage, de double présence, par contraste, peut-être avec la double absence qui avait été thématisée par Sayad à la fin des années 90. Donc, pour moi, donc, le transnationalisme des migrations remet vraiment en question la vision classique ou assimilationniste de la migration qui envisageait que pour être intégré dans un pays d'accueil, il faut donc se détacher des liens avec le pays d'origine et abandonner les spécificités propres au pays d'origine.
Mais en fait, ce qui fait la force des diasporas aujourd'hui, c'est de rester donc connecté avec son pays d'origine et avec le pays d'accueil. Qu'est-ce qui vous a conduit, Jenny, à vous intéresser aux diasporas sénégalaises disséminées dans trois grandes villes européennes?
Alors, donc, ce film, Au diapason de la diaspora, donc et l'étude aussi qui l'accompagnait, ont été réalisés dans le prolongement d'une étude et d'un film qui était réalisé en 2007. Donc ça, c'est notre deuxième étude sur le thème des migrations sénégalaises, de la diaspora sénégalaise. À l'époque, on parlait encore des migrations, en 2007. Donc, on a réalisé en 2007 le film Toukibi, hein, avec une étude qui l'accompagnait, qui signifie le voyage. Donc les migrants en tant que voyageurs qui font des allers-retours entre le pays d'accueil et les pays d'origine. Et on s'est intéressé vraiment aux représentations des causes et des conséquences de la migration, mais du point de vue des habitants, cette fois d'une communauté à forte tradition migratoire au Sénégal. Donc c'était dans la région de Louga. Et donc l'idée était vraiment de s'intéresser à la problématique de la migration, mais du point de vue du pays d'origine, de ses habitants. En fait, on a discuté avec des jeunes, des migrants des retours, des femmes des migrants qui restaient au pays, donc avec des étudiants universitaires, etc. Donc ce projet qui a été élaboré avec Damsar, comme le projet actuel, qui est d'origine sénégalaise, a permis donc de mettre en évidence un des résultats très importants qui est la perception du rôle crucial joué par les associations des migrants dans le développement local.
Dans le développement local, tout à fait.
Exactement.
Mais on va faire un saut vers cette étude qui a été réalisée donc en 2013 et qui a été précédée donc par le film, où vous êtes intéressé donc à la dynamique déployée par diverses associations des diasporas sénégalaises qui étaient installées à Paris, à Milan et à Genève. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'en se basant sur cette étude comparative, de nous expliquer en quoi la diaspora de Genève, finalement, est différente dans son développement et dans les activités qu'elle a pu entretenir avec le Sénégal.
Oui, alors c'est vrai que la présence de la diaspora sénégalaise à Genève est beaucoup plus récente et plus restreinte, hein, comparativement à des villes comme Paris et Milan. Ce qui est intéressant à Genève, c'est qu'elle se caractérise surtout par des étudiants universitaires, des fonctionnaires internationaux, bien que effectivement avec les années, on assiste de plus en plus à une augmentation de regroupements familiaux, donc des Sénégalais qui sont ici par mariage, ou à la présence de Sénégalais maintenant avec une nationalité européenne qui peut provenir donc d'autres pays européens. Mais de manière générale, à Genève, les Sénégalais se caractérisent par un plus haut niveau d'études que dans les autres villes. Et puis aussi, leur migration est davantage temporaire, hein, parce que les étudiants retournent au Sénégal après les études, ou alors ils vont dans des pays comme le Canada ou d'autres pays. Alors qu'à Paris, bien évidemment, la présence de la diaspora est beaucoup plus ancienne, la deuxième, la troisième génération, elle est très diversifiée. Et puis, à Milan, bien, disons, la migration sénégalaise était très importante en Italie, surtout à partir des années 80-90, et ça a été la destination privilégiée, peut-être avec l'Espagne, des Sénégalais. C'était, disons, le nouveau Eldorado, c'était un peu l'Italie.
L'Italie.
Et voilà. Et donc, et là, on trouve des personnes avec des profils un peu différents, surtout au début, maintenant ça a changé, qui proviennent surtout du milieu rural. Et voilà, mais avec les années. Et puis au début, elle était très masculine, alors qu'en France.
Et elle se féminise petit à petit.
Exactement, exactement, tout à fait.
Si on considère en fait ces trois capitales, Jenny, quel est l'effet positif du double rôle des associations ?
Bah, disons, l'effet positif du double rôle des associations, on peut parler effectivement au niveau historique. Des associations des villages, hein, donc les associations des villages qui ont lancé, disons, un tout petit peu cette tendance, les associations des villages en France, bien évidemment, elle est plus ancienne, hein, la migration française.
Mais est-ce qu'on peut dire, excusez-moi Denis, que finalement, c'est l'engagement des diasporas dans le pays d'origine a un impact positif sur l'intégration dans le pays d'accueil ?
Oui, oui, tout à fait, justement. Hein, c'est ce que j'étais en train de dire, hein, que historiquement, ce sont les associations de villages basées en France qui ont lancé, disons, cette dynamique dans le fait de s'engager pour des projets de développement des villages d'origine. Et grâce à ces rôles, petit à petit, ils ont acquis beaucoup de reconnaissance de la part des collectivités locales et aussi des ONG qui les ont par la suite appuyés au niveau technique et financier dans le cadre de la coopération décentralisée ou d'autres types de coopération. Donc, suite à ce développement, disons, d'un processus de co-développement qui est parti de la France, les associations sénégalaises qui sont aussi établies dans d'autres pays européens sont désormais reconnues dans leur rôle d'ambassadeur entre les espaces, hein, et puis contribuent aussi à mettre en lien les autorités locales, les mairies des localités d'origine et d'accueil, facilitent les échanges, l'interconnaissance. Donc, tout ceci a été initié donc vraiment par l'exemple de ces associations des villages. Et puis tout ceci a un impact très positif. Bien évidemment, le fait d'établir, de s'engager dans un processus de développement implique d'établir des partenariats ici et là-bas, donc d'augmenter son capital social. Et ce sont tous des aspects qui ont un impact positif sur les processus d'intégration ou d'inclusion sociale.
Tout à fait, Jenny. Il serait aussi intéressant, malheureusement, on n'a plus qu'une minute pour conclure, de nous expliquer dans quelle mesure est-ce que cette économie transnationale, et c'est le plus important, est nécessaire au développement justement de certains secteurs au Sénégal, et lesquels surtout ?
Oui, voilà, donc disons qu'il faut rappeler peut-être les transferts, l'importance des transferts d'argent que le Sénégal reçoit.
En deux mots, combien est-ce que ça génère ? Quel est le chiffre d'affaires ?
Voilà, en 2017, par exemple, il a reçu 2,2 milliards de dollars de transferts, donc de toute sa diaspora établie dans le monde. Et ce qui est important de rappeler, c'est que ça correspond au 13,5% du produit intérieur brut du pays. Et c'est plus que deux fois l'aide publique au développement, hein, bien plus que deux fois. Mais il faut aussi rappeler que cet argent est principalement destiné aux familles, donc utilisé pour la nourriture, pour l'amélioration des conditions de logement, l'accès à la santé, l'éducation. Donc seulement 10% est utilisé pour des activités productives. Et puis voilà. Donc,
mais dans quel secteur exactement, Jenny ? Est-ce qu'on est plutôt dans le secteur de l'éducation, de l'agriculture ? À quoi est dédié cet argent ?
Voilà, l'argent productif utilisé par les migrants, il s'agit de distinguer tout ce qui est, disons, les projets sociaux, donc à but social. Donc on peut construire des écoles. Beaucoup de migrants ont beaucoup contribué financièrement à la construction des lycées. Donc, des lycées, que ce soit des puits, etc. Donc, mais ça, c'est tous des projets sociaux pour la collectivité. Après, les transferts de fonds, qui sont plutôt individuels, disons, et les secteurs, disons, plus productifs, ça, c'est seulement 10%. Et les secteurs principaux, bien évidemment, c'est les secteurs du commerce, les activités agricoles également, mais c'est beaucoup la dynamisation aussi du secteur de la construction, parce que les migrants investissent beaucoup dans le bâtiment.
Dans le bâtiment.
Donc voilà, exactement. Mmh. Hein. Mais maintenant, c'est très important donc, pour les gouvernements des pays d'accueil, mais aussi bien évidemment pour les gouvernements sénégalais, d'essayer de canaliser de plus en plus ces investissements vers des entreprises ou des activités génératrices des revenus et d'emplois pour les jeunes.
Notamment dans l'agriculture. Jenny, je suis désolée, on va devoir s'arrêter. Un grand merci.
C'est un thème qui est très large. Donc je
très
vous
large.
En tout cas
on aura l'occasion d'en reparler très prochainement. En tout cas, merci beaucoup à vous,
avec
Jenny
plaisir.
Magui,
merci beaucoup.
Pour votre analyse. Par téléphone, je rappelle que vous êtes la co-auteure de cette étude « Migration transnationale sénégalaise, intégration et développement, le rôle des associations dans la diaspora à Milan, Paris et à Genève », une étude publiée en 2013. Une très bonne soirée à vous.
Merci, bonne soirée.
Merci beaucoup, Jenny.
À très bientôt. Et la diaspora sont en effet des passerelles dans le monde dominé par la mobilité et les relations transnationales, Daniel.
D'où l'importance de reconnaître ce double rôle des associations, des diasporas ici et là-bas. Comme le précise Jenny Magui, grâce à leur mobilité circulatoire, les migrants agissent de manière individuelle et collective sur le développement des pays d'origine, au travers de transferts sociaux et financiers, d'échanges, de compétences, d'activisme citoyen, mais aussi grâce à des partenariats avec des acteurs étatiques et la société civile, dans des projets de développement, dans divers domaines comme on l'a vu.
Voilà, un sujet très vaste, on l'aura compris, on retiendra cette partie dont on a parlé aujourd'hui. Et notez que si ce sujet vous passionne, on vous invite à visiter le site de la plateforme de la société civile suisse sur la migration et le développement. On vous met le lien sur notre site internet pour suivre les recherches de Jenny Magui notamment. Sa recherche actuelle porte sur l'engagement des migrants dans les projets de développement durable de l'agriculture au Sénégal. Les détails de ce projet sont à retrouver donc sur le site de l'unité de sociologie visuelle de l'Université de Genève. On vous met tous les liens sur notre site avec cet entretien et ce téléphone à retrouver évidemment en réécoute podcast. Merci beaucoup Daniel pour ce sujet.
Merci Fabien.
Avec Youssou N'Dour et cette chanson Baycat sur Radio Django.